le parc archéologique de Paphos. En montant les marches, juste après le guichet des billets, s'étend devant vous la région où se trouvait la nouvelle Paphos pendant l'Antiquité. Selon Strabon et Pausanias, la ville de Paphos a été fondée pour la première fois par le roi Agapinor, roi de Tégée dans le Péloponnèse, après la fin de la guerre de Troie, au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce récit se réfère à l'ancienne ville de Paphos, qui se situait approximativement à 17 km de la ville actuelle de Paphos, au village Kouklia. Là se trouvait le célèbre sanctuaire de la grande déesse de Chypre, qui a été identifiée à Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. Son sanctuaire était réputé dans l'ensemble du monde antique. La nouvelle Paphos a été fondée vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ par le roi Nicoclès, dernier roi de Paphos. Nicoclès a décidé de construire une nouvelle ville sur ce cap, autour d'un petit golfe, qui devait en devenir le port. La ville a été bâtie selon la méthode hippodaméenne, basée sur un plan urbain clair, aux alignements réguliers et fixant sur le terrain les emplacements des diverses fonctions de la cité, telles que les fonctions commerciales, politiques, administratives et celles liées à l'habitat. La cité était protégée par une haute enceinte et elle s'étendait sur une surface d'environ 95 hectares. La nouvelle Paphos devint le centre économique et commercial du royaume, tandis que Paphos demeura le centre religieux ainsi que le siège royal. Pendant le IIe siècle avant Jésus-Christ, les Ptolémées transfèrent la capitale de Chypre à Paphos en raison de la proximité de la ville avec la cité d'Alexandrie et son grand port. Elle servait de base navale ainsi que commerciale. C'est à partir d'ici que l'on exportait en Égypte les matières premières de l'île, principalement du cuivre et du bois. En 58 avant Jésus-Christ, Chypre passe sous la domination romaine, mais Paphos reste le centre politique et administratif de l'île. Le proconsul romain y réside, et la ville acquiert une importance encore plus grande. C'est pour ces raisons qu'on lui confère désormais des noms honorifiques tels que Augusta, Claudia, Flavia. Vers la fin du 2e, le début du 3e siècle après Jésus-Christ, la ville connaîtra son apogée. Pendant cette période, des bâtiments somptueux, publics et privés, seront édifiés. Beaucoup de leurs ruines ont perduré jusqu'à nos jours et vous pouvez les admirer dans ce parc archéologique. La majesté des bâtiments publics de cette période, tels l'Agora, le théâtre, le conservatoire de la musique, l'Asclépion, les temples consacrés aux divers dieux et empereurs, le réseau d'évacuation des eaux et les bains publics témoignent du niveau de vie élevé des habitants. Les bibliothèques, les théâtres et les gymnases, quant à eux, suggèrent également l'existence d'une vie culturelle riche. Le temple d'Aphrodite à Paphos devient le centre religieux et intellectuel de l'île, de même qu'il se développe comme l'un des plus grands centres religieux de tout l'Empire. Des lieux d'adoration chrétienne apparaissent à la suite de la déclaration de la liberté religieuse par Constantin le Grand, au IVe siècle après Jésus-Christ. Des lieux d'adoration chrétienne voient le jour. Au début du IVe siècle après Jésus-Christ, des tremblements de terre ont été responsables de la destruction de Paphos, comme d'autres villes à Chypre. La ville fut alors reconstruite, mais la capitale fut déplacée à Salamine, désormais nommée Constantia. Bien que de nombreuses églises y furent édifiées et qu'elle ait été le siège épiscopal, Paphos n'a jamais retrouvé son ancienne splendeur. Pendant la période byzantine et ultérieurement pendant la période des Lusignans, la ville revécut une partie de son ancienne gloire. On y construisit alors de nouvelles fortifications et des églises. Mais cela n'empêcha pas son nouveau déclin pendant la période de l'occupation vénitienne, lequel s'accentua à l'époque de la souveraineté ottomane. Les habitants abandonneront la région autour du port pour construire une nouvelle cité sur le plateau où se trouve aujourd'hui le centre de la ville. Durant les siècles qui ont suivi, les habitants utilisèrent les pierres déjà façonnées trouvées à la nouvelle Paphos afin de construire leur maison. C'est ainsi que l'on explique aujourd'hui la disparition de tous les murs ainsi que l'ensemble des peintures murales qu'ils décoraient. En montant les marches, juste après le guichet des billets, se trouve à votre droite le centre des visiteurs. Vous y trouverez de nombreuses informations, ainsi que des publications sur le parc archéologique. Puis, en suivant le couloir tout droit et en tournant ensuite à gauche, vous vous rendrez à la villa de Dionysos. La plaque posée à l'entrée de la demeure nous informe que la nouvelle Paphos fait partie des monuments de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les différentes demeures où se trouvent les mosaïques, le conservatoire romain, l'Asclépion et l'Agora, situés à l'est, et qui datent du premier moitié du IIe siècle, ont aussi fait l'objet de fouilles archéologiques. La maison de Dionysos. Cet espace a été découvert par hasard à la suite de travaux de nivellement. La découverte de vestiges de mosaïques donna suite à des fouilles plus systématiques qui portèrent à la lumière du jour une résidence cossue de la période romaine. Elle a été initialement considérée comme le palais du proconsul romain en raison de la richesse de sa décoration. Ce ne fut qu'à la découverte postérieure du vrai palais dans la même région et la découverte d'autres mosaïques aux alentours que l'on a pu conclure que ce type de décoration était quelque chose d'habituel dans les riches demeures de cette période. Les mosaïques appartiennent aux derniers bâtiments qui ont été construits ici sur les ruines des anciens édifices. Le bâtiment couvre une étendue de 2000 mètres carrés, desquels 556 mètres carrés sont couverts de mosaïques. Le dieu Dionysos, dieu du vin, y est souvent représenté, raison pour laquelle la demeure reçut l'appellation de maison de Dionysos. Elle a été construite vers la fin du IIe siècle après Jésus-Christ et détruite au cours des tremblements de terre du IVe siècle. La taille impressionnante de cette villa, qui dépasse les 40 chambres y compris les 15 sols en mosaïque, témoigne du niveau de vie élevé des habitants pendant la période romaine. La cour centrale, le patio, autour de laquelle étaient construites les chambres principales, constituait le noyau de la maison. Une galerie de colonnes s'ouvrait sur les quatre côtés de la cour. Les toits s'inclinaient vers l'intérieur dans le but de recueillir l'eau de pluie et de la canaliser vers une citerne située sous la cour. La demeure disposait également d'un système d'évacuation des eaux usées, lequel était relié au conducteur central qui passait sous la route. La demeure disposait de pièces qui étaient ouvertes aux visiteurs. Leur sol était décoré de mosaïques impressionnantes et des fresques murales venaient compléter leur ornement. Les chambres à coucher, quant à elles, avaient des sols moins travaillés, décorés de cailloux, tandis que ceux des cuisines, des ateliers, des salles de bain et des toilettes étaient simplement couverts de terre battue. En plus de la cour centrale, la maison possédait deux autres cours à ciel ouvert et une citerne pour les poissons, aquarium. Cette dernière était couverte d'un mortier rose que vous pouvez voir à l'extérieur de l'espace couvert. Les sujets des mosaïques, qui couvraient tous les sols des salles de réception, proviennent de la mythologie grecque. Les mosaïques se trouvent toutes à l'endroit où elles ont été découvertes, à l'exception de la première, qui représente le monstre mythique Scylle. Les mosaïques les plus anciennes sont ornées de formes géométriques et confectionnées de galets de couleurs blanc, noir ou marron. Le stade ultérieur consistait à fabriquer des mosaïques à l'aide de pierres coupées irrégulièrement. Leur perfectionnement technique s'étendit grâce à l'emploi de la tesselle, petit carré coupé. Les mosaïques étaient soit polychromes, soit en noir et blanc. Elles étaient fabriquées par des ateliers d'artisans et dans leur grande majorité, exécutées par les apprentis, tandis que le maître artisan fabriquait la composition principale, qui était en général plus conceptuelle. Les artisans aplanissaient d'abord le sol qui devait par la suite recevoir la mosaïque, puis ils y étendaient un mélange de gravillon et de crépi. Ensuite, on venait y étendre une deuxième couche, faite de petites pierres et de morceaux de poterie, mélangés au mortier à la chaux. Enfin, le tout était couvert d'une fine couche de mortier de chaux, sur lequel les artisans venaient placer les tesselles, tant que celui-ci était encore humide. Pour que la mosaïque devienne encore plus résistante, les artisans frottaient sa surface avec de la poudre de marbre, du sable et de la chaux. Toutes les tesselles provenaient soit de pierres locales, soit de marbre importé, mais aussi de vert pour les couleurs les plus rares, comme l'orange intense, le bleu, des nuances de vert et de jaune ou autres. Leur taille était approximativement d'un centimètre cube, à l'exception de tesselles utilisées pour les formes humaines, qui étaient plus petites. La thématique des mosaïques n'était pas une création de l'artisan. Elle préexistait comme projet, et le propriétaire pouvait choisir le sujet à son souhait. De nombreux objets d'emploi quotidien ont été également trouvés dans cette salle, et sont exposés au musée archéologique de Paphos. En entrant dans le vestibule de la demeure, sur le côté gauche, se trouve une mosaïque très différente des autres. Elle provient d'une demeure hellénistique de la fin du IVe siècle, antérieure à la demeure romaine, et qui a été découverte par hasard pendant la réalisation de travaux pour la fabrication de l'auvent en 1977. L'endroit où la mosaïque a été découverte, n'étant pas accessible au public, elle fut alors déplacée à son emplacement actuel. Cette mosaïque représente le monstre Scylle, connu de l'Odyssée. Il s'agit d'un monstre qui était une combinaison de femmes, de chiens et de poissons. Pourtant, Skylla n'a pas toujours été un monstre. Mais il fut à l'origine une femme d'une grande beauté, dont Glaucos, un beau jeune homme, tomba amoureux. Skylla le repoussa, et Glaucos s'adressa alors à la magicienne Circé pour l'aider. Cette dernière, étant amoureuse du jeune homme et jalouse de sa rivale, mit au point un poison qu'elle versa dans le golfe où Skylla avait l'habitude de se baigner. Lorsque Skylla rentra dans l'eau, elle se transforma en un monstre qui resta pour toujours dans la mer, d'où elle terrorise depuis les marins. À côté, un tableau plus petit représente deux dauphins entourés d'un cadre orné de figures géométriques. La mosaïque est fabriquée au moyen de galets blancs, noirs et marrons. Elle est réalisée avec une technique différente de celle des autres mosaïques de la demeure. Il s'agit d'une des plus anciennes mosaïques qui a été trouvée à Chypre, puisqu'elle est datée de la fin du 4e siècle, début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Juste en face, nous pouvons voir la première mosaïque de la demeure roumaine. Cette mosaïque représente Narcisse, fils du fleuve Céphis et de la nymphe Lyriopée, d'une beauté tellement exceptionnelle que de nombreuses jeunes filles et de nombreux garçons en tombent amoureux. Hélas, Narcisse était d'un caractère très fier et il restait insensible à leur amour. Un jour, pendant qu'il chassait, il a été vu par la nymphe Écho, qui tomba passionnément amoureuse de lui. Écho fut méprisée par Narcisse. Alors, le cœur brisé, elle s'enfuit dans la montagne et la forêt et se laissa dépérir. Elle était tellement amaigrie qu'elle avait totalement disparu et ne laissa que sa voix perdurer. Pour cette raison, nous pouvons tous entendre l'écho, mais personne ne peut le voir. Afin de punir Narcisse pour le grand malheur qu'il provoqua, les dieux l'ont condamné à subir le même sort. Ainsi, un jour qu'il était assis sur la rive d'un lac, il vit son reflet dans l'eau et tomba amoureux de sa propre image. Désespéré, il finit par dépérir et mourir. Les dieux eurent néanmoins pitié de lui et ils le transformèrent en fleur, le Narcisse. Cette image représente Narcisse admirant son reflet dans les eaux du lac. Une partie de cette mosaïque a été détruite lors de l'aplanissement du sol. Et pour cette raison, un grand fragment du décor géométrique a fait l'objet d'une restauration récente. À côté de la mosaïque de Narcisse se trouve celle des quatre saisons, qui fut également détruite et restaurée par la suite. Elle se compose de cinq tableaux, un aux quatre angles et un au centre. Sur les images, nous reconnaissons les quatre saisons personnifiées. À l'angle supérieur gauche, nous apercevons l'été, couronné d'épis, tenant à la main une faucille. À l'angle supérieur droit, on distingue le printemps, couronné de fleurs, tenant à la main une houlette, tandis qu'à l'angle inférieur droit se trouve l'automne, couronné de feuilles. Enfin, à l'angle inférieur gauche, nous devinons l'hiver, représenté un homme âgé aux cheveux gris. La figure du centre représente probablement la personnification du temps. Tous les tableaux sont encadrés d'une bordure ornée de cubes en perspective, alors que sur le cadre extérieur, il y a deux inscriptions, Here et Kesi. Ce type d'inscription existait habituellement dans le vestibule des maisons, ce qui nous amène à la conclusion qu'il s'agit de l'entrée de la demeure. En avançant vers le pont en bois, à gauche devant nous, nous nous dirigeons vers la pièce la plus vaste de la maison, de 11,50 m par 8,50 m de dimension. Il s'agit du tablinum, salle de réception, mais aussi salle de banquet. Le sol est décoré d'une mosaïque ornée au centre de scènes de vendange. Sur les trois côtés, une bordure large, au dessin géométrique, représente de petits boucliers, connus sous le nom pelt. Et plus vers l'extérieur, nous devinons un dessin géométrique inspiré du motif de méandre. Les deux bordures du côté ouest ont été malheureusement détruites. Lorsque la pièce était utilisée comme salle de banquet, les invités étaient semi-allongés sur des lits qui étaient placés en forme de pie à l'endroit où se trouve la bordure de bouclier. De cette manière, tous les convives étaient tournés vers le centre où se déroulait probablement une sorte de divertissement, le spectacle de danse par exemple. L'espace derrière les bancs restait libre pour que les serviteurs puissent les servir. À l'entrée de cette pièce, nous pouvons voir un grand tableau représentant Dionysos et son cortège célébrant leur retour triomphal de leur expédition en Inde. Au centre de la composition, le dieu est assis sur un char tiré par des panthères. Le cortège, qui se compose de satyres, de ménades, du dieu Pan qui était moitié homme, moitié bouc, et de deux hindous qui se distingue par leur peau foncée, prend place de part et d'autre de Dionysos. Du côté gauche et du côté droit du triomphe de Dionysos, vous remarquerez deux figures sans rapport direct avec le sujet du tableau. Ce sont les Dioscures, les frères jumeaux Castor et Pollux, qui sont nés d'un œuf après l'union de leur mère Léda avec Zeus, transformé en cygne, tout comme la belle Hélène de Troie, qui était née d'un deuxième œuf de cette union. Ce sont les vertus dissuasives et de porte-bonheur attribuées aux Dioscures qui permettent de justifier leur présence dans cette scène. Le tableau central est une composition de scènes de vendanges avec des personnages récoltant des raisins dont les vignes apparaissent chargées, mais aussi de scènes de la vie à la campagne. Vous pouvez reconnaître oiseaux et animaux divers. Et au centre, un grand paon encadré d'un petit héros ailé qui lui tient la queue. En rebroussant chemin et en empruntant le pont, nous avançons vers la cour où nous verrons une série de quatre tableaux du côté gauche. Sur le premier figure l'histoire de Piram et Thisbé, deux jeunes Babyloniens qui habitaient des maisons mitoyennes et s'aimaient malgré l'interdiction de leur père. Ils projettent de se retrouver une nuit, en dehors de la ville, sous un mûrier blanc. Thisbé arrive la première, mais la vue d'une lionne à la gueule ensanglantée la fait fuir. Comme son voile lui échappe, il est déchiré par la lionne qui le souille de sang. Lorsque Piram arrive, il découvre avec grand désarroi le voile rouge de sang ainsi que les empreintes du fauve. Tout laissant porter à croire que Thisbé en a été la victime, Piram décide de mettre fin à ses jours. Thisbé découvre près du mûrier le corps sans vie de son amant et préfère alors se donner la mort. Ce mythe nous est rapporté par Ovide dans ses Métamorphoses et fut la source d'inspiration pour les œuvres de Shakespeare, Roméo et Juliette et Le songe d'une nuit d'été. Dans la mosaïque, Thisbé est représenté de pied, tandis que Piram est allongé. Au centre, figure la lionne tenant le voile de Thisbé dans sa gueule. Les deux jeunes sont couronnés de leur prénom inscrit en grec. Le dernier tableau, qui est le plus grand, raconte l'histoire d'Icarios, un horticulteur athénien qui hébergea Dionysos lors de sa visite à la ville. Le dieu lui enseigna la culture de la vigne et la production du vin à partir de ses fruits en guise de remerciement pour son hospitalité. Par là même, Dionysios révéla pour la première fois aux humains la viticulture, mais avertit Icarios de rester très attentif à l'usage qu'il ferait de son vin. Pourtant, ce dernier oublia l'avertissement du dieu, et il offrit le vin de sa première récolte aux deux bergers qu'il rencontra sur sa route. Ces derniers, ivres, se crurent empoisonnés et le tuèrent. Sur cette scène, on remarque à gauche le dieu Dionysos, accompagné de la nymphe Acmée, tous deux couronnés de feuilles de vigne et buvant du vin. Au centre, figure Icarios, et juste derrière lui, le carrosse avec sa récolte. À droite, nous apercevons les bergers ivres, tandis que l'inscription « Les premiers buveurs de vin » confirme leur rôle dans la scène. Vous distinguerez également des inscriptions au-dessus d'Icarios, de Dionysos et d'Acmée. Dans le tableau suivant, figurent Poséidon et Amymone, qui étaient une des 50 filles du roi Danaos de Péloponnèse. Autrefois, toutes les sources en argolite s'assèchèrent, et Danaos envoya alors ses filles chercher de l'eau. Amymone rencontra sur sa route un satyre qui chercha à la violer. Poséidon, dieu des yeux, entendit l'appel au secours de la jeune fille et la sauva. Charmé par sa beauté, il lui révéla les emplacements des sources autour de Lerne, mettant ainsi fin à la sécheresse. La mosaïque représente Poséidon tenant son trident qui avance vers Amymone. Au centre, un héros tient d'une main un parapluie en forme de rectangle et de l'autre, un flambeau, tandis qu'une hydrie métallique symbolise l'eau. Le dernier tableau raconte le mythe d'Apollon et Daphné. Daphné était une nymphe, fille du fleuve Pénée, qui jura l'éternelle pureté. Le dieu Apollon tomba amoureux d'elle, mais il n'arriva pas à la faire céder à sa propre volonté. Poursuivie par Apollon, elle demanda désespérée à son père de lui venir en aide. Ce dernier transforma Daphné en laurier, qui dès lors devint l'arbre préféré d'Apollon. Dans le tableau présent, nous retrouvons la scène de transformation de Daphné en laurier. Le fleuve Pénée figure allongé à côté d'elle, tandis qu'Apollon, à droite, l'observe avec un air surpris. Au bout du couloir, nous rencontrons la mosaïque de Phèvre et Hippolyte. Phèvre était la seconde épouse du roi d'Athènes, Thésée. Hippolyte était le fils du roi issu de son premier mariage avec Antiope. Phèdre tomba amoureuse de son beau-fils et un jour, alors que le roi était absent, lui envoya une lettre d'amour. Hippolyte repoussa cependant ses avances et fut alors dénoncée au roi par Phèdre, par crainte d'être dévoilée. Elle l'accusa d'avoir cherché son amour. Furieux, Thésée demanda à Poséidon de punir son fils. Poséidon envoya aussitôt un taureau sauvage qui effraya les chevaux du jeune homme qui mourut écrasé. Après la mort d'Hippolyte, Phèdre, tourmenté par ses remords, se suicida. Sur cette scène, Phèdre est assise alors qu'Hippolyte, embarrassé, tient dans sa main la lettre. Vous distinguerez à côté de la femme un héros tenant un flambeau allumé qui symbolise la passion de son amour. Il est important de remarquer que l'héros se trouve du côté de Phèdre, montrant ainsi que les sentiments n'étaient pas réciproques. En avançant vers la gauche et ensuite à droite, nous nous dirigerons vers une grande salle décorée d'une mosaïque polychrome ornée de motifs géométriques. Le décor est constitué de deux bandeaux formant des cercles entre eux, ainsi que d'objets et d'outils d'usage quotidien, cratères, hydries, disques et autres s'intercalant. Les espaces entre eux sont ornés d'une grande variété de formes géométriques. Plus à droite, nous rencontrons une belle mosaïque qui présente le rap de Ganymède. Le cadre est constitué d'une composition d'octogones et de méandres. La scène ici représente l'instant où Zeus, transformé en aigle, saisit Ganymède et l'amène au ciel. Ganymède était un berger de Troie qui était considéré comme le plus beau de tous les mortels. En raison de sa grande beauté, Zeus l'enleva pour en faire les chansons des dieux. Cette mosaïque est une copie d'une mosaïque antérieure placée dans une autre pièce. L'artisan, obligé de l'adapter aux dimensions de la nouvelle salle, coupa les extrémités des ailes de l'aigle. En tournant à droite, nous arrivons au patio qui servait de cour intérieure, mais également comme puits de lumière pour l'habitat. Le toit était incliné, comme aujourd'hui, dans le but de recueillir les eaux de pluie afin de les canaliser vers les citernes situées au sous-sol. Autour de la cour, le sol est décoré de mosaïques qui représentent des scènes de chasse. Ce type de scène était populaire et particulièrement apprécié en Égypte du Nord, d'où elles sont propagées dans tout l'Empire romain. Ceci explique la variété des fauves exotiques représentées, parmi lesquelles nombreux sont ceux qui n'appartiennent pas à la faune originaire de Chypre. La représentation du mouflon, le plus grand animal endémique que nous rencontrons à Chypre, est d'une importance singulière. À l'ouest de la cour se trouve la mosaïque la moins complexe parmi toutes celles exposées. Il s'agit d'une mosaïque ornée de motifs géométriques en noir et blanc et dont les tesselles ont deux fois la taille de celles des autres mosaïques. À cet endroit même, se trouvait enterré un trésor important qui fut découvert lors des travaux de l'auvent. Dans une amphore, ont été trouvées approximativement 2500 monnaies ptolémaïques datées de 204 à 88 avant Jésus-Christ et qui constituent le trésor le plus important qui n'ait jamais été trouvé à Chypre. Les monnaies ont été façonnées à Paphos, qui possédait son propre hôtel des monnaies en tant que capitale de l'île. À côté de la mosaïque en noir et blanc, se trouve une chambre au sol en terre battue, puis une deuxième chambre avec une décoration géométrique. Le décor se compose de 4 rangs et 4 tableaux par rang, où figure à chaque fois une forme géométrique distincte. La richesse des couleurs et les formes complexes rendent ces tableaux particulièrement impressionnants. Ce sont des exemples rares en Méditerranée de l'Est, contrairement à la France, où on les rencontre plus souvent. Juste à côté, dans une petite chambre, se trouve un tableau au décor géométrique complexe, avec au centre un paon aux plumes ouvertes. Comme nous l'avons déjà mentionné un peu plus tôt lors de notre parcours, les couleurs intenses utilisées pour les mosaïques, dans ce cas plus précis le bleu, n'étaient pas obtenues à l'aide de pierres de couleur, mais de verre, lequel devait être probablement fabriqué à Paphos, puisque des ateliers ont été découverts dans la ville. La villa de Thésée. En sortant de la villa de Dionysos et en avançant vers l'ouest, sur une distance de 150 mètres, se trouvent les ruines d'un grand bâtiment connu sous le nom de la villa de Thésée. Son caractère royal, sa taille et sa somptuosité nous conduisent à la conclusion qu'il s'agit de la demeure du proconsul romain à Chypre. Il a été édifié vers la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, puis il a été détruit pendant les tremblements de terre du 4e siècle après Jésus-Christ. Le bâtiment fut ensuite reconstruit une deuxième fois avant d'être détruit et abandonné définitivement lors des incursions arabes au 7e siècle après Jésus-Christ. Il s'agit du plus grand bâtiment de tous les bâtiments publics de la Chypre romaine connus à ce jour. Ses dimensions sont de 120 mètres par 80 mètres et il comporte plus de 100 salles distribuées en 4 ailes autour de la cour en péristyle. Aux ailes à l'ouest, est et nord se trouvaient les salles privées, les salles de service, les ateliers et les salles de réception, tandis que du côté de l'aile sud se trouvaient les salles administratives ainsi que les salles destinées aux cérémonies. Des vestiges de salles de bain ont été découverts du côté sud-est du bâtiment. Celui-ci connut différentes phases de construction, comme le témoigne la découverte d'éléments architecturaux et de mosaïques des 3e, 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. En avançant vers l'installation moderne et en montant à gauche de l'espace surélevé, nous pourrons admirer une vue générale des bains qui se situe à l'angle sud-est du bâtiment. Contrairement aux habitudes des grands bains, ici, il n'existait pas un trajet prédéterminé des baigneurs. Le frigidarium, cela veut dire la chambre froide, est spacieux. Il se situe au centre et il est orné d'une mosaïque aux formes géométriques. Du côté nord, se trouvent deux grands bassins revêtus de plaques en marbre qui étaient destinés aux bains froids. Du côté sud, se situent les salles de bain chauffées. À partir du grand foyer, préfumium, qui était situé à proximité de la construction, l'air chaud produit était envoyé par des canalisations en sous-sol, hypocauste, chauffant ainsi le sol des bains. Il y avait également des vestiaires, des salles de toilette, ainsi que des espaces réservés aux soins du corps, comme l'onction aux huiles aromatiques. Toutes les salles avaient des sols en mosaïque et des murs décorés d'un revêtement en marbre, ainsi que des peintures murales. Les bains restèrent en fonctionnement durant une longue période et furent également utilisés par le grand public pendant leurs dernières années d'usage. En avançant vers le couloir en bois, nous verrons une grande représentation en mosaïque sur notre gauche. C'est une composition qui nous présente la scène mythique de Thésée tuant le Minotaure. Il s'agit de la plus ancienne mosaïque du 3e siècle après Jésus-Christ. La scène nous est présentée en cercle. Thésée, figure principale, se prépare à tuer le Minotaure dans le labyrinthe. L'homme âgé derrière lui est la personnification du labyrinthe. Au-dessus sont représentées deux figures féminines. Il s'agit, du côté gauche, d'Ariane, qui aida Thésée à sortir du labyrinthe, et du côté droit, de Crète. La décoration cyclique autour de la composition représente de façon schématique l'idée du labyrinthe. Selon la mythologie grecque, Thésée était le fils du roi Égée et un des héros d'Athènes. Le roi de Crète, Minos, avait obligé la ville d'Athènes à lui envoyer tous les 7 ans un tribut de 7 jeunes gens et de 7 jeunes filles qui donnaient en pâture au Minotaure qui vivait dans le labyrinthe de son palais. Thésée décida de mettre fin à ce carnage et se rendit en Crète avec les jeunes victimes afin de tuer le monstre. Le roi Égée demanda à son fils d'échanger les voiles noires par des voiles blanches en guise de signal de victoire. Ariane, fille du roi Minos, qui tomba amoureuse de Thésée, lui donna une pelote de fil devant lui permettre de retrouver la sortie. C'est ainsi que Thésée, étant rentré dans le labyrinthe, réussit à abattre le monstre et à en ressortir vivant. Thésée, ses compagnons et Ariane reprirent la route vers Athènes, mais oublièrent d'échanger les voiles du bateau. Du coup, Égée, voyant les voiles rester noires, se jeta à la mer qui porte désormais son nom, la mer Égée. Cette mosaïque a été endommagée par endroits et certainement restaurée vers la fin du IVe siècle. La technique, distincte de la tête de Thésée et de celle de Crète, rappelle le style byzantin. La mosaïque d'Achille. En laissant derrière nous la mosaïque de Thésée, tout en avançant vers le nord, au bout du couloir en bois, nous arrivons à la salle principale du palais. Nous sommes dans la salle d'audition du gouverneur. La partie en arrière de celle-ci, de forme absidale, possède un sol décoré en opus sectile, c'est-à-dire constitué de plaques en marbre de diverses formes et couleurs, tandis que la partie en avant possède un sol orné de tableaux en mosaïque. Le seul tableau parmi ceux-ci qui est resté bien conservé jusqu'à nos jours est celui représentant la naissance d'Achille. Quant aux quelques vestiges qui subsistent des 3 autres mosaïques, ils nous laissent deviner une reproduction probable des scènes de sa vie. La mosaïque est datée du 5e siècle après Jésus-Christ, siècle durant lequel les sujets inspirés par la vie des héros de la mythologie grecque étaient particulièrement populaires. Achille était le fils de Pélée, roi de Myrmidon, et de Thétis, fille du dieu marin Néré. Lorsqu'Achille naquit, sa mère le plongea dans le Styx pour qu'il devienne immortel. Son talon, par lequel le tient Thétis, ne trempa pas dans le fleuve, et Achille resta vulnérable. Pendant la guerre de Troie, une blessure au talon provoqua sa mort anticipée. Sur cette mosaïque figure la scène de la naissance du héros. Thétis est allongé au centre de la composition, tandis que Pélée, son époux, est assis à sa gauche. De ce même côté, une nourrice tient le nourrisson dans ses bras. Elle se prépare à lui donner son premier bain. Derrière la figure de Pélée, nous remarquons les trois moires, Clotho, Atropos et Lachésis. Cette reproduction rappelle la manière dont est représentée la naissance et le premier bain du Christ dans les églises byzantines et médiévales. La maison d'Orphée. À peu de distance à l'ouest de la villa de Thésée, vers l'extrémité du site archéologique en direction de la mer, vous rencontrerez une demeure qui est connue sous le nom de la maison d'Orphée. Le bâtiment possède un caractère architectural similaire à celui de la villa de Dionysos, avec une cour centrale entourée de chambres adjacentes. Nous constatons également l'existence de bains. La demeure est datée vers la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, tout comme la villa de Dionysos. Le pillage des matériaux a provoqué la destruction d'une grande partie du bâtiment. Une partie du mur gauche a été néanmoins préservée, alors que de nombreux vestiges de peintures murales témoignent que les murs de la maison en étaient ornés. Les pièces décorées de sol en mosaïque se situent du côté nord de la demeure. La première mosaïque représente Héraclès et le lion de Némée, alors que la deuxième figure, une amazone sur son cheval. Héraclès est le plus illustre des héros de la mythologie grecque. Célèbre pour sa force surnaturelle, il dut accomplir les 12 travaux. Le premier des 12 exploits consistait à abattre le lion géant qui avalait et terrorisait la population de la région. Selon le mythe, les armes de l'époque ne pouvaient transpercer la peau de la bête. Lorsqu'Héraclès rencontra le lion, il lui décocha des flèches, mais il lui fut impossible de le tuer. Alors, armé de sa massue, il suivit le monstre dans sa grotte qui avait 2 accès. Après avoir condamné l'un des accès à l'aide de pierres, il pénétra dans la grotte par la 2e entrée. Héraclès ne fit pas usage de sa massue et étrangla le lion en utilisant la force surnaturelle de ses mains. Ensuite, il ramena au roi Eurysthène la peau de la bête comme preuve de son exploit. La mosaïque reproduit la scène où Héraclès s'apprête à attaquer le lion. Nous remarquons que la massue est déposée par terre. Au 2e tableau, figure une amazone sur son cheval. Selon la légende, les Amazones étaient un peuple mythique qui habitait son propre pays et qui était formé uniquement de femmes. Elles étaient les filles du dieu Arès et de la déesse Aphrodite. Pour assurer la subsistance de leur civilisation, elles s'unissaient une fois par an avec les hommes des peuplades voisines. Des enfants nés, elles n'en élevaient que les filles. Quant aux garçons, elles les tuaient ou les confiaient à leur père. Afin de protéger leur pays, les Amazones étaient devenues d'excellentes archères, raison pour laquelle elles étaient considérées comme des guerrières à l'égal des hommes. Un des travaux d'Héraclès consistait à s'emparer de la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. C'est probablement pour cette raison que les deux images se trouvent ensemble. Sur ce tableau, l'Amazone est représentée portant le bonnet phrygien et tenant dans sa main la double hache. Le tableau situé à côté reproduit une image d'Orphée aux fauves, d'où l'appellation de la maison. Orphée était le fils d'Oagre, roi de Thrace, et de la muse Calliope. Selon la légende, le dieu Apollon lui enseigna la musique et lui offrit sa lyre. Orphée charmait les animaux par les sons de sa lyre, et il parvenait à émouvoir les êtres inanimés. Il participa à l'expédition des Argonautes, puis revint au royaume de son père, où il rencontra la nymphe Eurydice, dont il tomba amoureux. Cependant, le jour de leur mariage, Eurydice fut mordue au mollet par un serpent. Elle en mourut et descendit au royaume des enfers, laissant Orphée inconsolable. La chanson de ce dernier était tellement triste que les dieux lui permirent de descendre au royaume de Hadès pour la retrouver et la ramener avec lui. Après avoir endormi par sa musique enchanteresse Cerbère, le monstrueux chien qui en gardait l'entrée,